Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu où on essaye de vous faire le point sur l'actualité jeux vidéo, gaming, industrie du gaming, un petit peu d'analyse, PC, console et même appareils mobiles de temps en temps. Et aujourd'hui, on va avoir de tout. C'est merveilleux. On va parler évidemment de la PC Master Race avec des petites histoires qui sont en train d'arriver à Valve qui font un petit peu scandale. On va vous parler de Guitar Hero qui revient et qui est un petit peu surprenant, de Star Wars Battlefront qui est totalement invraisemblable, littéralement incroyable, de jeux Apple Watch. Et oui, sont-ils merveilleux, sont-ils le plaisir au poignet? Et plein d'autres petites news. Et j'ai avec moi pour m'accompagner dans cette émission le camarade Geoffroy Husson qui est avec nous une fois encore. Je dis une fois encore parce que tu étais il n'y a pas si longtemps dans le rendez-vous tech.
Exactement.
Donc tu fais rendez-vous tech, rendez-vous jeu.
C'est J'enchaîne.
Comme tu es un petit peu passionné et spécialisé dans les deux cas. Toi, tu travailles donc chez Tom's Guide en France.
C'est ça.
Et tu as fait plein de petits trucs partout. Et tu es aussi d'ailleurs l'une des voix de Culture Breakdown.
Pour l'instant, on a annoncé hier que l'émission s'arrêtera en juin, donc encore pour 2 mois, voilà.
D'accord, mais après, attends, vous arrêtez complètement ?
On arrête complètement en
mais
juin. Ça arrive, ça fait 4 ans et demi que l'émission existe, donc on s'est dit que ce serait bien de s'arrêter là, tout se passe très bien, mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait proposer dans l'émission, donc on a tous décidé d'un commun accord d'arrêter.
Mais du coup, c'est bien, ça va te laisser plus de temps pour venir dans mes émissions.
Exactement, pourquoi pas.
Très bien, bah écoute, merci Geoffroy d'être avec nous aujourd'hui, et on va se lancer dans l'actualité brûlante, chaud bouillante de Valve, et des scandales multiples du scandale qui a explosé il y a quelques jours, 2-3 jours à peine, au moment où Valve a décidé d'autoriser les mods, ou plutôt d'activer les mods payants sur sa plateforme Steam. Alors, la plateforme Steam est une plateforme qui a un passé un petit peu mouvementé. Quand elle a été lancée autour de 2004, je crois, elle a, peut-être même un petit peu avant, elle a connu l'ire des joueurs, dont la variété de joueurs PC est particulièrement virulente, on va dire, parfois. Donc, s'ils vous aiment, ils vous aiment beaucoup. S'ils ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas du tout. Et à l'origine, donc, la plateforme Steam était un petit peu détestée. Ça peut se comprendre parce que, à l'époque, l'idée d'une part de gérer sa plateforme particulièrement sur le cloud et de télécharger ses jeux était vraiment compliqué, les connexions internet n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et puis l'idée du DRM, du Digital Rights Management, donc de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut avec son jeu, on ne pouvait pas le facilement, en tout cas il fallait être connecté à internet au moins une fois par mois pour pouvoir jouer au jeu qu'on avait acheté, C'était, ça avait du mal à passer. Au fur et à mesure des années, la plateforme s'est bonifiée et surtout, elle a gagné le cœur des gamers avec force propositions commerciales, avec beaucoup de jeux différents, avec une volonté de la part de Gabe Newell, le principal représentant et le principal actionnaire, si je ne m'abuse, de Steam, en tout cas son visage public, qui a montré à de très nombreuses reprises qu'il était prêt à écouter la communauté, à faire ce qui était important pour la communauté, à faire aussi ce qui était important pour Steam, c'est sûr, mais qui est vraiment, il y a un esprit communautaire dans cette société et dans cette plateforme qui est peut-être beaucoup moins présent chez les autres.
Avant de te laisser enchaîner, je pense que Steam, c'est le seul exemple que j'ai en tête d'une plateforme qui est basée sur les DRM et qui a réussi à marcher autant, à part peut-être les Kindle pour les livres numériques, mais j'ai pas en tête d'autres exemples, que ça soit en cinéma, que ça soit en musique, où un système basé sur les DRM et où le DRM est le fondement du système a aussi bien marché que pour Steam.
C'est vrai que même pour iTunes, qui fonctionnait très très bien à l'époque, ils ont fini par lâcher les DRM.
Exactement.
Donc oui, aujourd'hui, iTunes n'est plus vraiment basé sur les DRM. Je pense qu'on peut dire qu'il marchait bien avant quand même, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un amour et une fierté, je dirais peut-être pas un amour, mais une affection de la part de la communauté des joueurs PC pour Steam, qui a... On va pas dire voler en éclats, mais qui a été mis à...
Oui.
Ah oui, c'est sûr. C'est... Ah bah, disons qu'il y a d'autres plateformes. Hein. Il y a des choses
oui,
comme
Google
Games. Voilà. Enfin, je dirais, et tout ça, comme c'est vrai que même moi... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des autres côtés, on a des choses comme Origin ou Unity. Origin de EA et Unity de Ubisoft. Et même Battle.net de Blizzard. Battle.net, je pense qu'elle
Unity,
est assez appréciée.
C'est Uplay.
Uplay, pardon. Ouais. Oui, qu'est-ce que je dis comme bêtise. Unity étant évidemment un middleware de développement.
Un moteur
3D, entre autres. Mais oui, Battle.net, je pense qu'il est assez apprécié des joueurs, comme tout ce que fait Blizzard, généralement. Mais pas tout, presque tout. Par contre, Uplay et Origin sont vraiment pas appréciés.
Ils sont utilisés de force, oui.
C'est ça.
C'est vraiment parce que... moi, j'ai certains jeux sur Origin, mais c'est vraiment parce qu'Electronic Arts ne sort ses nouveaux jeux que sur Origin.
C'est vrai, je crois que personne n'irait naturellement vers Origin pour utiliser les jeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? C'est vrai qu'il y a eu des différents moments dans l'histoire de Steam qui a été un petit peu mouvementé avec une communauté très qui vocifère pas mal. Et il y a quelques jours, il s'est passé un truc qui a créé une explosion de mécontentement sur le forum officiel de l'internet qui est Reddit et partout, un petit peu partout ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires sur Twitter et sur les forums et sur les sites et beaucoup de discussions, un petit peu conscrites au monde du PC qui est particulier, mais quand même dans le monde du PC et du jeu PC, ça fait beaucoup de bruit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué l'ire de tous ces joueurs-là? En fait, Steam a, comme je le disais, activé la possibilité pour les développeurs de faire vendre les mods aux développeurs de mods. Les mods, j'essaye toujours d'être très inclusif. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des jeux, en particulier sur PC, où les mods, les modifications sont extrêmement importantes à la vie du jeu et extrêmement actives. Les modifications peuvent permettre de changer parfois à peu près n'importe quoi. Il y a des jeux comme la série des Grand Theft Auto, ou en l'occurrence, qui nous concerne aujourd'hui, ce qui nous préoccupe aujourd'hui Skyrim, mais il y en a beaucoup d'autres, où les mods peuvent permettre de faire des choses totalement folles.
Et on
par
peut
exemple,
avoir, par exemple, des... Mais, désolé de te couper. On peut avoir
même
des
n'hésite
mods
pas,
qui vont
sinon
créer...
tu parles jamais. Hein,
voilà,
donc,
on va avoir des mods qui vont créer de nouvelles catégories de jeux, comme les MOBA, qui sont nés à la base d'un mode de Warcraft et Dota 2, dont Valve est éditeur, était à la base Dota et qui était un mode de Warcraft 3.
Tout à fait, c'est vrai qu'il y a une vraie culture de la modification, une vraie culture de ce développement parallèle sur PC et sur des jeux comme Skyrim, GTA, c'est les deux que j'ai en tête, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça a permis aux jeux d'avoir une longévité vraiment invraisemblable, bien au-delà de la sortie du jeu, avec des packs de textures, des modifications où on peut jouer différents personnages, des là c'est pour certains modes qui restent dans le jeu, comme tu le disais, il y a des modes qui ont créé modes c'est modification, hein, vous l'aurez compris, l'abréviation de modification. Il y a des modes qui ont créé d'autres types de jeux, enfin il y a vraiment des choses incroyables qui sont faites grâce à l'ingénuité des développeurs, enfin des joueurs qui s'improvisent parfois développeurs, qui sont parfois développeurs par ailleurs. Et tout ce petit écosystème a existé généralement dans une ambiance complètement étrangère à tout aspect commercial. C'est-à-dire que tout ça a été fait par amour des jeux, tout ça a été fait par amour du on dit des jeux en général, et amour du jeu autour duquel se développait la culture de mode en question. On voit qu'il y a même récemment un jeu comme Cities Skylines qui a déjà plus de 30 000 mods qui ont été développés pour le jeu, qui peuvent permettre de faire à peu près tout et n'importe quoi.
Après, des mods, ça peut être effectivement tout et n'importe quoi, et on a, on avait déjà sur le Steam Workshop des mods payants, que ça soit des skins, des cartes, des accessoires, etc., qui étaient vendus déjà pour certains jeux de Team Fortress 2, enfin de Valve, donc comme Team Fortress 2, Dota 2 ou Portal 2, par exemple. Donc c'est pas vraiment une nouveauté. Là où ça va être nouveau, c'est que ça va s'étendre vraiment à plus de développeurs et pas uniquement aux jeux de Valve, d'après ce que j'ai compris.
C'est ça. Alors en fait, il y a des choses qu'il était possible de vendre, qui étaient intégrées, qui étaient des sortes
pour c'est des skins, grosso modo.
C'est ça, voilà.
Des chapeaux. Là, voilà, le chapeau de Team Fortress 2.
Et là, en fait, Valve donne les clés aux développeurs, et c'est ça qui a été un petit peu... En fait, il y a eu plusieurs choses qui ont choqué la communauté. D'une part, cette idée que leur monde allait changer si ces choses continuaient. Parce que cet esprit presque communautaire est vraiment important pour certains membres de cette communauté. On retrouve presque l'idée d'un développement, pas open source, mais par contre, d'un développement Creative Commons presque. L'idée que ce genre de choses est gratuite, tout le monde peut les reprendre, les modifier, les réutiliser.
Alors, les libristes vont te dire que Creative Commons est gratuit, enfin que libre et gratuit, c'est pas forcément pareil.
Non, tout à fait, à fait. Mais ce que j'essaye d'illustrer, en fait, l'ambiance qui règne dans cette communauté.
Côté un peu libriste, un peu, hippie.
Voilà, un petit peu hippie, c'est ça. Bon, j'irais même pas hippie, mais l'idée que cette communauté est liée par autre chose que l'argent.
Oui.
Et ça, c'est un sentiment qui est vraiment fort dans la communauté. Ils sont liés par la passion pour les jeux plutôt que l'idée de pouvoir gagner des sous en développant pour ces jeux, ce qui est une idée tout à fait noble. Maintenant, il y a un autre élément qui a choqué les gens, c'est que, évidemment, quand on commence à vendre, à donner aux gens la possibilité de vendre des mods, on va se poser la question de savoir combien gagnent les différents participants à cet écosystème. Alors, on n'a pas les chiffres précis. La chose dont on est sûr, c'est que les développeurs de ces mods ne gagnent que 25% de l'argent que paye une personne qui l'achète. Valve, a priori, on ne sait pas, mais a priori garderait 30% parce que c'est un petit peu le standard dans ces écosystèmes.
Et 45% pour le développeur.
Voilà, 45% pour le développeur, avec la précision que c'est bien le développeur qui fixe les prix. Donc, c'est le développeur, on imagine qu'il y a 30% qui sont immuables pour Valve, et ensuite le développeur décide, donc en l'occurrence Bethesda, décide combien de ce qui reste, des 70% restants, vont aller aux développeurs du mode et combien vont aller à eux-mêmes.
Ouais. Juste pour les prix, j'étais tombé sur une info. Apparemment, en janvier dernier, donc au total, il y avait 55 millions de dollars qui avaient déjà été reversés aux créateurs de mode sur le Steam Workshop. Donc, ce qui est plutôt conséquent déjà. Il y a déjà des développeurs de mode ou de skins ou d'accessoires.
Mais par quel biais ?
Par le Steam Workshop, justement. Puisqu'aujourd'hui, on peut vendre des chapeaux, etc.
Ceux qui étaient déjà disponibles, oui, d'accord.
C'est ça. Après, il n'y avait pas ce pourcentage-là qui était existant sur ça. Il me semble que... Enfin, je vais peut-être dire une bêtise, mais souvent...
Je pense que c'est une partie pour Valve et une partie... Oui, je...
Je suis pas sûr, je me demande si le développeur gardait pas tout à l'époque. Mais ah bah non, il devait forcément garder une partie pour Valve, autant pour moi.
Oui, je pense, oui.
Oui.
Mais du coup, ça nous amène à l'autre côté de ce grand débat, qui est, est-ce que il est intéressant pour les développeurs de mode de rentrer dans un système comme celui-ci? Alors, pour la partie Bethesda, c'est marrant parce que on se retrouve à avoir la même discussion que celle qu'on avait eue avec la sortie de Angry Joe contre Nintendo il y a quelques semaines, où lui était très mécontent de l'attitude de Nintendo et où finalement on se demandait si, enfin moi en tout cas je me posais la question, les vidéos que crée Angry Joe et que créent tous les let's players qui sont différentes de review, qui sont des vidéos qui a priori impliquent moi à mon sens autant la personnalité et le travail du let's player que ou du youtuber que le travail et du développeur qui a créé le jeu. Et donc à mon sens il me paraissait normal qu'il y ait une partie qui aille au développeur du jeu et une partie au youtuber, en théorie, hein. Ensuite le développeur pouvait tout à fait décider qu'il ne voulait pas de cet argent et que la promotion était avait une plus grande valeur pour lui que l'argent qu'il gagnerait, donc il voulait encourager ce genre de choses. Pour le cas de Bethesda, je pense qu'il y a effectivement une certaine maladresse dans le fait de se garder presque le double de ce que gagne le développeur du mode, même si en l'occurrence il semblerait qu'il soit, enfin ça soit un petit peu la prérogative du développeur du jeu dont le mode améliore certains aspects, mais qui est quand même à la base la source de toute cette affaire.
Oui, oui.
Donc 25% c'est à mon sens certainement très faible, et je dirais que un jeu comme Skyrim qui existe depuis des années
2012,
et qui continue,
Skyrim,
c'est même plus vieux que ça, Skyrim.
Skyrim.
Ah oui,
je vérifie rapidement.
Oui, je
pense. Je te laisse continuer.
Ça, ouais. Skyrim 2011. Oui, 2011. Tu as raison. Bon, novembre 2011. Donc, qui existe depuis 4 ans presque, 3 ans et demi, 4 ans, grâce au travail de ces modeurs. Je pense qu'il faudrait que Bethesda soit un petit peu plus raisonnable. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que toute cette histoire est arrivée parce que il faudrait que Bethesda soit plus raisonnable et donne plus d'argent aux développeurs de mode, ou est-ce que le principe même d'insérer un aspect commercial à cette pratique est négatif en soi? C'est une grande question.
Moi, je pense aussi que au niveau du calendrier, c'est une annonce qui tombe plutôt juste pour Valve et donc pour Steam, puisque seulement il y a quelques jours qu'est sorti enfin GTA V sur PC, et je m'attends incessamment sous peu à avoir une annonce aussi de l'ouverture des modes pour GTA V, des modes payants pour GTA V, et je pense que là ça fera probablement encore plus de bruit que pour Skyrim, puisque GTA V est un jeu qui est sorti seulement maintenant, et pour lequel les gens vont être un peu plus sensibles que pour Skyrim, pour lequel les gens ont déjà installé des modes depuis 4 ans, donc...
Je ne sais pas si pour les modes pour Skyrim, au contraire, il y a une communauté qui est déjà forte.
Non, mais les gens ont déjà installé ces modes-là, les modes qu'ils voulaient sur Skyrim. Je ne sais pas.
Ouais, c'est possible. Il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits. Le boss de Valve, donc
Gabe Newell
a été sur Reddit au bout de 2 jours pour essayer de discuter et d'expliquer la chose. Et c'est là qu'on voit vraiment, pour ceux qui connaissent pas Valve en tant que société, la différence qu'il y a entre Valve et les autres sociétés, et la proximité qui existe entre la société et ses représentants et la communauté. En l'occurrence, il s'est rendu compte que ça commençait à exploser, il a pas envoyé un communiqué de presse, il a pas laissé uniquement les community managers gérer ça. Lui-même, il a pris son compte Reddit et il est allé sur Reddit et il a dit « Bon, les gars, visiblement, on a fait un truc qui vous a pas plu. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos questions? Au moins, si vous êtes énervé, comprenez la situation de manière exacte pour savoir pourquoi vous êtes énervé. Je veux pas qu'il y ait d'incertitude ou de malentendu entre nous. » Il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits aussi sur la difficulté à gérer ce genre de choses, parce que au-delà de du fait de vendre des mods, il peut y avoir effectivement des mods qui sont de mauvaise qualité qui sont vendus, il peut y avoir des mods comme sur l'App Store par exemple, des mods qui sont repris d'autres mods qui vont être mis en vente par quelqu'un qui n'en a pas entre guillemets la propriété, on peut imaginer, ou alors une petite modification d'un autre mode, une idée qui est reprise et qui va être mise en vente, qui finalement est une entre guillemets un vol de ce qu'a fait un autre modeur. Un aspect sur lequel appuie Valve, bien sûr, et qui, à mon sens, est très valable, c'est l'idée que les modeurs pourraient vivre, ou au moins à commencer à vivre de leur activité qui, aujourd'hui, est obligatoirement faite sur sur leur temps libre et
en hobby,
c'est ça, et qui parfois ils mettent énormément de temps dans ce hobby et ils n'ont jamais de compensation possible. Le développeur de Garry's Mod d'ailleurs, qui est un mod légendaire qui s'est transformé lui-même en plateforme de développement, a dit allez-y, moi je suis pour qu'on fasse ça, parce que ça peut permettre justement à des gens de se découvrir une passion et une activité valable. Skyrim, le user rating de Skyrim est descendu de 6 points. Il est passé de 98 à 92% parce que les utilisateurs sont allés noter Skyrim très bas à cause de cette histoire. Notch, le développeur légendaire de Minecraft, a mis son grain de sel. Bah, c'est lui qui l'a développé à l'origine.
Il est parti de Mojang, oui.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il a fait un commentaire là-dessus. Il a dit, vous vous souvenez quand moi j'ai essayé de réguler, d'ordonner le développement des mods sur Minecraft et que tout le monde a explosé et que finalement je l'ai pas fait et c'est pour ça que je suis parti. Bah voilà, ouais. Bonjour. bref, il y a eu énormément de commentaires là-dessus. Au final, est-ce que tu penses... D'ailleurs, certains ont suggéré l'idée de mettre un bouton donation plutôt que vente pour les mods. Et c'est vrai que moi qui vis de donations volontaires des auditeurs du Rendez-vous Tech, entre autres, c'est quelque chose qui... Je pourrais imaginer que ça fonctionnerait, effectivement. Possiblement, hein, on ne sait pas, mais au final, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, que ça serait plutôt positif ? On ne peut pas dire nécessaire ou pas nécessaire, mais plutôt positif ou plutôt négatif, cette histoire de mode ?
Très franchement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Très sincèrement, c'est-à-dire que je comprends l'esprit des joueurs PC qui pouvaient télécharger leur mode jusqu'à présent de façon totalement libre, etc. Après, je comprends très bien que certains développeurs aient envie de vendre leur mode. De toute façon, Valve va laisser la possibilité de les distribuer gratuitement aussi, pour certains mods.
C'est une option.
Les gens qui ont téléchargé un mode, qui n'en sont pas contents, je crois, ont 24 heures pour pouvoir annuler l'achat. Donc, ça me paraît relativement propre. Après, moi, voilà, finalement, je suis pas contre le principe.
Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit sur Twitter que les problèmes avec les différents modes qui seraient des copies de ceci ou ce genre de choses. Ce que fait Valve très bien, comme le fait Amazon ou ce genre de choses, c'est gérer les commentaires des utilisateurs. Et ça pourrait être crowdsourcé finalement. Bah, si le mod est une copie de quelque chose ou s'il est pas bon, ou et ben les notes le montreraient très très vite. Bon, moi je crois que j'aime bien l'idée de donation volontaire. En même temps, je sais pas si c'est la meilleure solution. Je pense que dans l'ensemble, je pense qu'il y a eu d'une part une explosion un petit peu, une réaction violente qui va pas rester violente sur le long terme. Je pense que le fait de pouvoir payer les développeurs de mode est en fait une bonne chose. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de le faire de cette manière, je sais pas. Et j'ai confiance en Valve, en ce sens que Je pense qu'ils vont naviguer les eaux troubles du mécontentement de la communauté. Ils vont pas revenir en arrière, je pense pas. Je pense que les modes payants sont là pour rester, mais qu'ils vont peut-être assouplir certaines choses ou essayer d'adresser certaines préoccupations de la communauté. Il y a eu des histoires censure, par exemple. Certains disaient « Ah, vous nous avez censuré parce que ils ont activé le fait de devoir avoir acheté quelque chose pour pouvoir commenter dessus. » Ce qui est à peu près normal.
Ce qui est logique.
Je pense que, oui, c'est logique. Oui. Sinon, c'est la open season pour les trolls, quoi.
Exactement.
Mais donc, il y aura des petits ajustements comme ça. Et je pense qu'au final, comme l'histoire mouvementée de Valve, de Steam lui-même, je pense qu'au final, dans un an, deux ans... Les gens s'y seront faits, et même ça sera positif. Je pense qu'il y aura des gens qui vont passer de ce hobby de développement de mode, qui vont pouvoir non seulement en vivre, parce que c'est très bien de pouvoir en faire vivre les gens, mais vont pouvoir en vivre et créer des modes d'une qualité encore plus incroyable.
Et puis finir même par développer des jeux, parce qu'il y a beaucoup de développeurs de jeux qui ont commencé en développant des modes à la base, donc ça peut être bénéfique aussi.
Donc je comprends tout à fait cet aspect négatif de la perte de l'innocence finalement de cet écosystème, mais je pense que les aspects positifs, donc c'est pour dire que il y a des aspects positifs, négatifs qui sont réels, que je comprends tout à fait, mais je pense que les aspects positifs compenseront et auront la communauté sur le long terme verra en quoi ça a des aspects positifs, et en ce sens que, à mon sens, ça va vraiment améliorer la qualité de l'écosystème des modes. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Donc voilà. Grosse histoire, hein. C'était
grosse
inattendu
histoire,
et difficile à déballer tout ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous pensez de toute cette histoire, si vous pensez que c'est positif ou négatif, et surtout pourquoi vous pensez que l'histoire est positive ou négative. Venez nous le dire sur frenchspin.fr, dans les notes de l'émission. Je serais vraiment intéressé d'entendre les commentaires et les raisonnements des membres de la communauté. Autre annonce, c'était Guitar Hero Live, qui était un petit peu un secret de Polichinelle, mais dont la forme est un peu surprenante. On savait que Guitar Hero allait revenir, on a déjà Rock Band qui a annoncé qu'ils allaient revenir. Guitar Hero revient, mais la forme est un petit peu étonnante. Et là où Rock Band fait exactement ce qu'on attendait d'un retour des jeux de rythme et des jeux de guitare, et bon, dans le cas de Rock Band, des jeux de musique de groupe, Guitar Hero fait tout le contraire. C'est-à-dire que avec Rock Band, on va pouvoir a priori utiliser les instruments qu'on avait déjà, on va pouvoir utiliser les morceaux qu'on avait déjà achetés, etc., etc. Et ça va être exactement le même mode de jeu. Avec Guitar Hero, tout est transformé. Évidemment, Activision oblige, on pourrait avoir envie de dire, si on était un petit peu cynique, aucun des morceaux qu'on a déjà achetés ne sera compatible, aucun des instruments qu'on a déjà achetés ne sera compatible. Et là, on pourrait avoir tendance à se dire, mais du coup, c'est que de l'arnaque, cette histoire. Ils vont nous revendre les mêmes choses. En fait, moi, j'aurais tendance à dire pas vraiment, parce que ce qu'ils ont proposé m'a l'air au moins intéressant. Je ne sais pas si ça sera bien, mais ça sera intéressant.
Je te trouve gentil. Hein. J'ai suivi un petit peu, effectivement. Ouais. Du coup, ce sera des nouvelles guitares avec 6 boutons, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça. En fait, 3 boutons qui
en haut,
auront...
3 boutons en bas. Ou...
Voilà, 3 boutons en haut, 3 boutons en bas.
Donc un peu plus proche d'une vraie guitare, finalement, où là, cette fois, on différenciera les cordes et non pas uniquement les cases de la guitare.
Ouais.
Avec des morceaux différents. La principale nouveauté, ce sera une action un peu filmée façon première personne, et donc on verra les réactions du public. Selon si on a bien joué ou pas, on pourra se faire huer, on pourra se faire applaudir, etc.
Et donc filmé en live, c'est-à-dire que c'est...
Ça me paraît un peu gadget, en fait. Voilà, ça me paraît, je suis pas super emballé par ça. Après, j'ai jamais été un grand joueur. Enfin, j'ai joué 3-4 fois dans ma vie à Guitar Hero, donc j'ai pas une grande expérience du jeu. Je me dis simplement que, bah, encore une fois, ça va dépendre du style de musique qu'il y aura. Et là où je suis un peu désarçonné, c'est que aujourd'hui on a un jeu comme SingStar qui est passé vraiment en free to play. C'est-à-dire on achète le micro et ensuite enfin le jeu en lui-même est gratuit et c'est les titres qu'on va acheter derrière. Et je pense que ça aurait été un très bon modèle pour Guitar Hero de pouvoir télécharger les titres à l'unité pour pouvoir y jouer derrière.
Bah, en l'occurrence, la librairie, c'est peut-être ça qui va te
C'est peut-être
réconcilier
ça.
avec l'idée du jeu.
Oui.
Quand tu achètes le jeu, tu as la guitare effectivement, et tu as a priori des centaines de titres déjà inclus dans la librairie. Donc, tu pourras certainement. Alors, d'une part, le nouveau contrôleur, la nouvelle guitare, à mon sens, moi, ça me paraît intéressant cette histoire de trois boutons en haut, trois boutons en bas, parce que on peut jouer de manière simple avec juste trois boutons. Et si on veut compliquer les choses, on a des combinaisons qui peuvent être vraiment compliquées avec, par exemple, deux en bas, un en haut, deux en haut, un
Oui,
en
des
bas,
accords, quoi.
ou alors même effectivement appuyer sur deux boutons en même temps, en bas, en haut, et puis deux autres. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Certains disaient oui, les cinq boutons c'était plus compliqué avec le petit doigt et tout. Là, je pense qu'il y aura des trucs compliqués aussi. Ensuite, cette idée de vidéo live. Moi, pourrait me séduire. Je me demande si ça va pas être tout de suite hyper ringard, mais moi, ce que je pense, c'est que ça va rendre tout de suite très ringard les images 3D numériques, enfin 3D artificielles,
Ouais.
avec le gros rocker
Mais
en cartoon, quoi.
c'était sympa, il y avait un petit côté un peu pas kitsch, mais le côté un peu métal, etc., très cartoony, qui était, enfin, moi qui me plaisais bien justement dans l'esthétique des anciens Guitar Hero.
C'est marrant, mais je pense qu'au contraire, ça va devenir très kitsch une fois qu'on aura l'idée, en fait, le fantasme d'être au milieu d'une foule, tu vois,
Ouais.
parce qu'on va commencer dans un petit club pourri avec 50 personnes, et puis on va continuer, ça va être de plus en plus peuplé, puis on finira dans les stades avec des milliers de personnes devant nous
À
qui nous
Coachella.
bouent. C'est ça, mais c'est, tu vois, c'est,
Ouais.
je pense que le fantasme du coup de Guitar Hero, quoi, sera plus marrant avec ce genre de choses. Bien sûr, ça sera jamais réaliste, surtout qu'on a des trucs un petit peu débiles, genre quand tu rates trois accords, tu as les groupes, les membres de ton groupe qui te regardent en disant oh, mais qu'est-ce que tu fous? Vas-y,
Ouais.
joue mieux, joue mieux. Bien sûr, c'est complètement débile, c'est un jeu. Et on a perdu on a abandonné l'idée de faire un simulateur de guitare. Ça reste un jeu, mais à mon sens, ça va plus nous parler. Et puis il y a cet autre aspect du jeu qui est Guitar Hero TV, qui est pas 100% clair, mais il y aura différentes chaînes de vidéos en streaming où on aura les clips des morceaux auxquels on pourra jouer. Et par-dessus, on aura donc la route des notes, la classique. Et ça sera un mode pour avoir du drop-in, drop-out compétitif. Donc on rentrera sur une chaîne, et puis on pourra jouer contre quelqu'un ou avec quelqu'un, et puis repartir quand on voudra, un petit peu comme on peut rentrer ou sortir d'une partie dans Diablo, quoi.
D'accord.
Avec différents thèmes sur les différentes chaînes, on pourra peut-être pas choisir les morceaux, mais on arrivera et on jouera sur la chaîne rock, sur la chaîne pop, sur la chaîne bluegrass, je sais pas, tu vois, ce genre de
Ouais.
truc. Et tout ça, ils ont dit, la base ne sera pas payante. Il n'y aura pas d'abonnement, il n'y aura pas de nouveaux jeux Guitar Hero en 2016. Alors, il y aura certainement un moyen de monétiser, hein, je suis convaincu. Il y aura peut-être Guitar Hero TV Premium où on pourra choisir ses morceaux ou ce genre de choses. Mais il semble qu'il y ait, en plus avec cette annonce récente de centaines de titres disponibles au lancement, j'espère qu'une bonne partie sera disponible gratuitement, hein. On ne sait pas comment ça fonctionnera, mais avec tout ça me semble être d'une part une valeur intéressante pour un package à 100 $ enfin à 100 € sans doute, avec la
Avec la
guitare.
guitare.
D'autant plus, on a oublié un aspect marrant qui est que ça sera disponible sur toutes les consoles et tous les mobiles. En ce sens
C'est vrai.
qu'on pourra avoir le jeu, donc on achète la guitare. On ne sait pas si ça sera un seul modèle de guitare qui se connectera à tout, a priori non, mais on achète la guitare et on a le jeu sur iPad ou Android tablette ou téléphone, et le jeu peut être connecter, enfin la machine, on peut jouer directement dessus, ou le connecter en AirPlay ou en Chromecast ou ce que c'est, ou en Miracast ou quoi que ce soit, sur la télé.
C'est tout simple. Hein.
Ou disons qu'il faut connecter à la télé, mais on connecte à la télé et on envoie sur la télé. Peut-être qu'il y aura effectivement sur les télés des applications gratuites qui permettront de te connecter à ton... Bref, on enverra l'image si on veut sur la télé, ou on gardera uniquement sur le téléphone, bon courage pour regarder ça, mais quand même, ou sur la tablette. Et donc, on n'a plus forcément besoin de la console. Bref, tout ça, pour moi, ça crée une expérience qui est différenciante par rapport à Rock Band, qui va rester dans un jeu de rythme un petit peu plus traditionnel. Et c'est une bonne alternative. On aura le choix, finalement. Ça ne sera pas exactement les deux mêmes jeux. On aura le choix, quelque chose d'un petit peu différent, qui réussira ou qui, au contraire, se plantera, et quelque chose de plus traditionnel. Moi, j'étais très satisfait de cette annonce, quoi.
Ok.
Bon, j'ai réussi à te convaincre un petit peu.
Mais ok.
D'accord, ok. Bon, t'es pas convaincu. Au moins, t'auras le choix.
C'est ça.
Est-ce que t'es convaincu par contre par l'incroyable trailer du jeu Star Wars Battlefront qui est censé tourner sur PS4 ? Alors, ce qu'ils ont dit, c'est que ils ont livré le trailer et ils ont dit c'est du game engine footage, ouais. Donc des images du moteur du jeu, pas forcément. En jeu, c'est pas ce que vous allez voir, mais parce que quand on est en première personne, évidemment, c'est un petit peu différent, mais c'est des images du moteur du jeu lui-même.
Je suis complètement convaincu.
C'est vrai ?
Non, vraiment. Moi, j'ai très très hâte de Star Wars Battlefront.
Mais je veux dire, est-ce que tu crois que c'est vrai ? C'est tellement beau, moi, j'y crois pas, quoi.
Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est le moteur du jeu. Après, c'est certainement un petit peu optimisé, etc. Enfin, ça a l'air d'être le moteur du jeu, ça fait pas cinématique. C'est-à-dire qu'on voit parfois que les textures qui sont un peu, voilà, enfin, sont pas toujours optimales, etc. Et je pense que c'est vrai. Et après, le jeu, moi, me fait très envie, alors que je suis pas vraiment, enfin, je suis pas du tout FPS à la base. Mais voilà, Star Wars Battlefront, qui sortira juste avant l'épisode 7.
Ouais, c'est bien calculé.
Ouais, c'est bien calculé. Surtout qu'ils ont, enfin, c'est DICE qui développe le jeu. Et le premier DLC a déjà été dévoilé, ce sera Battle for Jakku, et Jakku, pour ceux qui ont suivi un petit peu la dernière, enfin, qui ont vu la dernière bande-annonce de Star Wars, c'est la première scène de la bande-annonce, justement, quand ils sont dans le grand désert et qu'on voit le croiseur interstellaire au fond, c'est cette planète-là, donc la planète désertique qui ressemble à Tatooine. Oui. Et ça se déroulera, donc, du coup, juste avant l'épisode 7, ce qui s'est passé, justement, pourquoi est-ce qu'il y a ces carcasses de vaisseaux sur la planète et tout ça, et voilà, moi, ça me fait très envie.
C'est vrai que moi, je suis pas un fan de Battlefield. J'ai jamais joué à Battlefront non plus, dont il a existé deux versions avant celle-ci, il y a très longtemps. Mais je suis curieux, disons. Et en plus, c'est tellement beau. Mais je pense que c'est les scènes de jeu, de moteur de jeu, les plus belles que j'ai vues de ma vie. J'arrive pas à y croire, quoi. C'est pour moi, c'est impossible qu'ils retranscrivent que le jeu soit effectivement comme ça. Je le croirais quand je l'aurais vu. C'est littéralement incroyable pour moi. Mais bon, c'était censé être sur PlayStation 4, ce trailer. On verra, ça sera disponible le 17 novembre. Je suis beaucoup plus intrigué que je ne pensais l'être à l'origine. Et il y aura visiblement une sorte de petit mode solo. On ne sera pas obligé de tout faire en
ligne.
En ligne. Je crains que ça soit un petit peu la fête des bots avec des parties multi, mais avec des bots au lieu des autres joueurs, la partie solo. Mais bon.
Là où c'est drôle, c'est que Star Wars Battlefront, le Battlefront 3 est un projet qui date d'il y a plusieurs années déjà, et qui a été vraiment réannoncé, il me semble, ça devait être l'an dernier à l'E3. Et pour le coup, ça tombe vraiment à pic avec la sortie de Star Wars 7.
Oui, c'est sûr. C'est bien calculé.
C'est très bien calculé.
Et j'avoue que Star Wars, je commence à être curieux. J'aime bien Star Wars, mais je suis pas un méga fan. Et là, il me titille, quoi.
Oh, moi, je suis complètement hypé par Star Wars 7.
Ouais, moi aussi, ouais. Bon, on verra ça à la fin de l'année.
Ouais.
Apple Watch, bon, parlons un petit peu de jeux sérieux quand même. L'Apple Watch est sorti, il y avait un des points d'interrogation qui était est-ce que les premiers jeux vont être intéressants ? Alors le point d'interrogation, il était un petit peu artificiel parce qu'on se doutait quand même
que ça allait pas l'être.
Voilà, si, déjà on est sceptique sur l'idée que des jeux sur une montre puissent être intéressants, déjà que sur téléphone ou sur iPad, c'est rarement le cas. Et alors sur une montre, bon, a priori, pas vraiment. Et en plus de ça, la plupart des développeurs n'avaient pas de montre quand ils ont développé les jeux et c'était fait avec des émulateurs. Et en plus, c'est un nouveau form factor qui, si jamais on réussit à l'apprivoiser à un moment, bah, ça sera pas pour tout de suite. Mais bon, ayant moi-même une Apple Watch pour la tester pour d'autres raisons, je me suis dit que j'allais quand même tester les jeux, voir un petit peu ce que ça donnait. J'étais intrigué là aussi, une petite pointe de curiosité. Et donc la réponse, est-ce que tous ces jeux genre Watch Quest, Blade, comment ça s'appelait, Rune Blade, etc. Est-ce qu'ils sont intéressants ? Est-ce qu'ils sont pourris ? À ton avis, Geoffroy ?
Je pense qu'ils sont pourris.
Eh bien, tu as raison !
Oui !
Ils sont tous tout pourris ! C'est-à-dire que c'est un petit peu n'importe quoi, c'est... Vraiment, les principes de gameplay, c'est de taper une ou deux fois d'attendre et puis de regarder parce qu'évidemment, tu peux pas bouffer toute la batterie en jouant à un truc hyper sérieux. Enfin, tu pourrais, mais là, c'est pas ce qu'ils ont fait. Moi, je pourrais imaginer des trucs genre avec la Digital Crown, le fait de contrôler un vaisseau. Tu sais, une sorte de Defender ou de Space Invaders horizontal où tu contrôlerais ton vaisseau, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas encore le cas.
En fait,
ça sera... Ouais.
Là où j'ai un problème, c'est que sur l'Apple Watch, aujourd'hui, il y a deux interactions qui sont possibles seulement pour jouer, c'est-à-dire appuyer sur l'écran, et encore, on voit pas forcément ce qui se passe à l'écran, puisque l'écran est relativement petit, ou alors glisser son doigt dans un sens ou un autre, et ça manque quand même de précision et d'interaction possible. Donc moi, je me disais, la molette, ça peut être effectivement ce qui est le plus intéressant sur Apple Watch pour du gameplay, enfin pas pour du gameplay, mais pour du contrôle. Et voilà, ça me fait un peu peur.
Bah écoute... À vrai dire, j'ai été un peu surpris de la précision du pointage sur l'écran, parce que même s'il est minuscule, on réussit vraiment à pointer des petits éléments, des tout petits éléments qui font, tu sais, un dixième ou un quinzième de la taille de l'écran. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il est possible de faire des choses. Par contre, moi, ce qui m'a... une chose à laquelle je m'attendais... Et une chose à laquelle je ne m'attendais pas. La chose à laquelle je ne m'attendais pas, parce que je suis idiot, c'est que le fait de lever le poignet, ça va pendant 10 secondes. Mais quand tu tiens la montre levée pendant plus que ça, ton bras commence à fatiguer. Ouais. C'est un petit peu comme quand tu sais, tu as un ordinateur avec un écran tactile, mais l'écran tactile est en face de toi. Tu sais, c'est l'ordinateur de bureau avec écran tactile. Au bout de 10 secondes, tu en as marre de lever le doigt pour toucher l'écran. Là, c'est un petit peu le même sentiment. Donc ça, je m'y attendais pas et ça, à mon sens, ça détruit d'un coup toute interaction longue avec l'objet. L'autre truc, c'est que n'importe quel jeu qui est vaguement sympa, genre des jeux de lettres où il faut choisir les lettres ou des jeux de trivia, au final, franchement, c'est plus simple et plus sympa de sortir ton téléphone et de le faire là-dessus que de le faire sur la montre. La montre, c'est des trucs intéressants. Quand tu regardes, tu swipes deux fois et c'est terminé. Donc, bon, ça veut pas dire que ça n'existera jamais, les jeux sur la montre. Moi, je pense que...
Il y en a aussi sur Android Wear, hein, mais après, voilà, c'est pas... Enfin, sur Android Wear, par exemple, l'un des tout premiers jeux à être sorti, c'était Flappy... Enfin, c'était une copie de Flappy Bird. Bon, ça vole pas bien haut non plus. Enfin, c'est l'occasion de le dire. C'était pas volontaire.
Quelle
mais
plaisanterie
voilà,
de qualité.
Ça vole pas bien haut.
Bah, disons que je pense que ce genre de truc... Si jamais il y a des jeux qui réussissent à arriver sur les montres, ça sera des trucs différents de ce qu'on fait sur téléphone. Et je pense que ça pourra arriver un jour, mais on n'y est pas encore, quoi. Donc, on verra ce que ça donne, mais pour le moment, c'est pas convaincant. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup plus de temps que ça là-dessus. Ensuite, des news un petit peu plus rapides. On parlait de téléphone, tiens, et de jeux sur mobile. Du coup, je vais changer un petit peu l'ordre des news. Tu voulais nous parler du fait que Hearthstone est disponible sur téléphone.
Et oui, et j'ai perdu tout mon temps libre, du coup. Non, voilà, juste pour simplement le souligner, le portage est excellent. Blizzard a fait un super boulot. Pour les gens qui ne connaissent pas Hearthstone, simplement pour rappeler, c'est un jeu de cartes édité par Blizzard qui reprend un peu le principe de Magic the Gathering, donc avec des systèmes de classes, avec des systèmes de héros et donc des cartes, des sorts, des serviteurs, tout ça. C'est un jeu qui était disponible déjà sur PC et qui était sorti sur tablette en fin d'année dernière, notamment sur tablette Android, et qui est là cette fois disponible sur smartphone Android et iOS, enfin et iPhone, et le portage était très bien fait. On a un système de zoom, enfin on a tout un système qui est bien commode, et du coup ça m'arrive de jouer dans le train maintenant quand je rentre du travail et voilà, et je suis complètement perdu.
Et tu rates pas, entre parenthèses, il y a des gens qui me reprochent de dire Hearthstone alors que c'est Hearthstone, et effectivement j'en suis désolé, je devrais le savoir parce que quand
tu viens de Blizzard,
voilà, j'ai travaillé chez Blizzard au moment entre autres où on a lancé le jeu, et je me battais contre les gens qui disaient Hearthstone, donc mea culpa, c'est bien Hearthstone. Mais du coup t'as pas des problèmes de déconnexion quand t'es dans le train en pleine partie?
Alors ça dépend si je suis dans le train souterrain ou pas. Ça, mais j'ai tenté le premier jour de jouer dans le RER A, dans lequel je capte parfois la 4G, parfois rien du tout. Ouais. Je me suis fait complètement laminer, ça m'a fait sauter 5 tours d'affilée. Enfin voilà. mais sinon non, dans le train généralement ça passe. Et puis même en attendant le train à la gare, etc. Ça permet de passer le temps.
C'est vrai. Donc peut-être une occasion de découvrir ce jeu. Moi je trouve que l'interface est quand même moins bonne que sur tablette ou sur PC ou sur Mac.
Je la trouve bien adaptée quand même.
Mais elle est pas mal. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui disent « Oh, elle est incroyable, on a l'impression que c'était fait pour ça. » Moi, je trouve qu'elle est quand même un petit peu « crammed », comme on dit en anglais. Genre, on est un petit peu étriqué, mais ça marche, c'est sûr que ça marche.
On a un système de zoom, notamment sur les cartes. Donc, les cartes qu'on a dans notre main, il faut appuyer une fois pour pouvoir toutes les déployer, pour pouvoir les voir. Donc, voilà,
ça prend un peu d'habitude.
Ça
prend
un peu plus de tape sur l'écran. Mais voilà, c'est plutôt bien foutu et c'est assez convaincant, je trouve.
Ouais, c'est assez convaincant, c'est sûr. T'as aussi essayé Mario Kart 8 en mode 200 cm3.
C'est horrible. Non, il est sorti la semaine dernière en même temps que le DLC qui apporte notamment, enfin qui apporte pas mal de personnages, notamment d'Animal Crossing. Ça va très vite, ça va très 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 vite, et ça permet de redécouvrir à quoi sert le bouton B sur Mario Kart. bouton B, donc pour les gens qui ne connaissent pas Mario Kart, c'est le bouton sur lequel on est censé freiner, sauf que d'habitude on ne freine jamais dans Mario Kart. Et donc là, on peut pas prendre les virages autrement. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que je pense que ça peut redistribuer un peu la donne, puisque jusqu'à présent, les personnages favoris ou les cartes favoris dans Mario Kart, c'était les personnages qui allaient le plus vite et donc qui étaient les plus lourds aussi, donc qui avaient une faible accélération, mais qui avaient une vitesse de croisière plus rapide. Et là, avec ces personnages-là, ça devient très compliqué de jouer en mode 200 cc. Et je pense que ça peut redistribuer un peu la donne vers les personnages qui sont plus légers et une meilleure accélération. Donc c'est assez intéressant ce qu'a fait Nintendo là-dessus.
D'accord. Bah, moi, j'ai pas encore essayé le mode 200 cm3, mais c'est vrai que la mise à jour gratuite pour les fans du jeu, je pense que ça change pas mal de choses. Ah ouais. Quoi. Moi, déjà en 150, je sortais de la piste régulièrement. Oui. Donc, on verra. C'est peut-être pas forcément pour moi, mais je pense qu'il y a des gens qui apprécieront.
Oh, c'est assez impressionnant.
La suite du drame entre Hideo Kojima et Konami. Alors, on en avait déjà parlé, hein, la séparation douloureuse entre le créateur phare de la société et la société dans laquelle il a travaillé pendant des années et des années. On se demandait ce qui allait arriver au remake de Silent Hill qui était récupéré par Kojima et qui, a priori, risquait de... on avait un petit peu peur pour le projet, et Guillermo del Toro a visiblement confirmé que ça n'arriverait pas. C'est arrivé après l'annonce de Konami selon laquelle le playable teaser de Silent Hills allait disparaître du PlayStation Store dans quelques jours seulement. Vous avez jusqu'au 30, je crois, pour le télécharger si vous voulez l'essayer. Et a priori, le jeu ne verra jamais le jour, mais ça vaut peut-être le coup.
Parce que du coup, c'est un teaser de rien du tout.
Voilà, c'est ça. Mais c'était quand même une une expérience très positive. Moi, je ne serais pas surpris que Kojima et Del Toro et les autres personnes impliquées dans le projet se remettent à faire un truc qui s'appellerait pas, tu vois, Silent Hills, mais genre The Silence of the Hills, tu vois, et qui reprennent le projet, en fait. Ça m'étonnerait pas du tout, mais on verra. On verra ce que ça fait. Mais donc, oui, allez télécharger, si vous avez une PlayStation 4, allez télécharger ce teaser. Il a été... Moi, j'ai pas pu jouer plus de 10 minutes, ça m'a fait trop peur, mais je l'ai quand même retéléchargé. Je pense que je vais le réessayer, parce que là, du coup, ça devient un morceau d'histoire, quoi. Gears of War Remaster arriverait sur Xbox One. C'est une rumeur, hein, c'est une rumeur. Moi, je serais assez intéressé par un remaster de Gears of War 1, et je me demande si je ne serais pas un petit peu déçu, parce qu'à l'époque, il était incroyable, et vraiment, il a changé le third-person shooter, l'histoire du third-person shooter. Tu serais client, toi, d'un Gears of War remaster ?
Alors, j'ai jamais joué à Gears of War, j'avais pas de Xbox 360, j'ai toujours pas de Xbox One. Pourquoi pas? Après, je suis pas encore une fois, je suis pas un grand fan de FPS ou de TPS. Les seuls qui m'ont vraiment convaincu, c'était les Mass Effect. Et encore, c'est parce qu'il y a une orientation très très jeu de rôle. Après, découvrir. Ah, ça m'étonne pas trop que ça... enfin ça m'étonnerait pas trop que ça ressorte en version HD sur Xbox One, puisque bah, c'est un peu ce qu'a fait Microsoft avec Halo déjà. Donc, en espérant que ça ait plus de succès que Halo Collection.
Oui, que le jeu soit moins complètement buggé et pourri au lancement, tu veux dire ?
Exactement.
Ouais. Oui, moi je pense que ça pourrait être intéressant pour des gens de redécouvrir le jeu. J'espère qu'il tient le coup, parce qu'il est quand même très très vieux. Il a dû sortir en 2006, je crois, ou 2007. Moi, c'était le jeu pour lequel j'ai acheté la Xbox 360 à l'époque. Je l'avais adoré. J'ai acheté Gears of War, je crois que c'était le 3, il y a quelques semaines. Je me suis dit, oh, j'aimerais bien retester Gears of War. Voyons un jeu récent. Je l'ai acheté pour ma Xbox 360, qui est toujours sous ma télé. Je trouve que le mécaniquement, ça a un poil vieilli. Donc, je sais pas. Faudra peut-être que c'était le 3 qui était moins bien que le 1. Je sais pas. Mais pourquoi pas? Ça pourrait permettre à des gens de découvrir cette série avant une sortie d'un vrai nouvel épisode, sans doute l'année prochaine.
Probablement.
Ouais. Autre nouvelle, Telltale va s'attaquer aux licences Marvel.
Et là, et on ne sait pas trop ce que c'est. Bah, on ne sait rien, en fait.
Bah, j'imagine que ça va être un jeu de narratif à choix, oui, comme ça, tout leur jeu. Est-ce que ça fait pas trop? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à bout avec les jeux Telltale? À l'époque de Walking Dead, c'était génial, tout le monde adorait, moi inclus. Maintenant, est-ce qu'ils commencent pas à se fatiguer? Et puis surtout, un jeu Marvel avec des choix, avec des ambiguïtés morales et tout, est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Est-ce que c'est l'essence de Marvel?
Moi, j'ai plusieurs théories là-dessus. Or, déjà, simplement pour souligner que Telltale, donc c'est un studio qui existe depuis une dizaine d'années au total maintenant, et qui n'a jamais sorti de jeu en licence propre. Ils sont toujours basés sur des Jurassic Park, sur des. Ils ont fait Retour vers le futur aussi. Ils ont fait Fable, ils ont fait Game of Thrones, ils ont fait Walking Dead. Et donc, ouais, le jeu est prévu pour 2017. Et on sait absolument pas ce que ça racontera, sinon qu'il y a un partenariat entre Marvel et Telltale. Et il faut savoir que 2017, ce sera aussi l'année où Marvel va sortir son premier Spider-Man. Enfin, le studio Marvel sortira son premier Spider-Man. Donc, je me demande s'il y aura peut-être un lien. Voilà.
Je ne crois pas que ce soit Marvel directement qui sort Spider-Man. Si.
Ah, si, c'est Marvel. Si, Marvel.
Ils ont racheté les droits, je croyais qu'ils travaillaient avec.
Alors, ils sortent ensemble, Sony reste distributeur, mais pour le coup, ce sera dans le même univers que Marvel Studio et que Iron Man, Thor, Captain America, etc.
C'est ça, oui, dans le même univers, mais je crois que c'est tout de même Sony qui produit.
Oui, bah après, c'est Marvel Entertainment qui travaille avec Telltale, c'est pas Marvel Studio. Donc, il reste Marvel Entertainment, t'as toujours les droits sur Spider-Man.
C'est vrai.
Donc, on verra bien. Et simplement pour rappeler, en 2017, si c'est question de rapport avec le cinéma et non pas uniquement des comics, on aura Guardians of the Galaxy 2 et Thor 3, Thor Ragnarok, donc ça peut être un lien aussi avec ce jeu-là. Mais voilà, on n'en sait absolument rien pour l'instant.
Ouais, moi je suis même sans en savoir rien, je me demande si ça commence pas à être un petit peu usé, la formule, tu vois. Bah, peut-être qu'ils feront autre chose, hein, mais...
Tu veux dire un jeu Minecraft?
Bah. Creative Assembly a confirmé Total War Warhammer sur PC. Alors ça, c'est un petit peu plus ta came, je crois.
Ça, c'est un peu plus ma came, parce que, enfin, un peu plus ma came. Je suis un, alors pas un fan de Warhammer, donc ce sera Warhammer, l'univers médiéval fantasy.
Oui, pas Warhammer 40 000.
Pas Warhammer 40 000. Moi, j'étais un grand joueur de Warhammer 40 000 pendant mon adolescence. Et je trouve que les meilleurs jeux Warhammer sont très loin les jeux stratégistes. Et moi, j'ai passé des mois sur Dawn of War, que je trouvais formidable, qui était donc pour le coup en temps réel. Et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire sur un Total War Warhammer. L'idée me plaît beaucoup, en tout cas.
Ouais, moi je suis tous ces jeux de stratégie, j'arrive jamais vraiment à me lancer dedans. J'ai un ami qui m'a offert Cities Skylines, j'ai essayé un petit peu, je vais réessayer un peu, mais je sais que c'est pas la même chose, hein. Mais
c'est pas la même chose.
Non, bien sûr, mais tous ces jeux qui nécessitent un petit peu de patience, un petit peu d'attention, tu vois, moi j'explose des trucs avec un fusil à pompe plutôt, tu vois.
Ouais.
Donc
mais ça pourrait plaire à Jérôme Kenborg, ça, je pense.
Ça pourrait,
c'est
oui, à lui,
spécial.
C'est complètement son domaine, par contre.
C'est ça.
Donc tu vois, moi c'est plutôt genre Destiny que j'aime bien.
Cette transition.
Ah, n'est-ce pas?
C'est un métier.
Destiny House of Wolves, donc le prochain DLC arrivera le 19 mai, et il n'y aura pas vraiment un nouveau raid, mais il y aura une sorte de horde mode, de mode horde comme dans certains Call of Duty ou certains justement Gears of War, et le prochain raid arriverait dans une mise à jour dont on a déjà entendu parler, une major update entre guillemets, donc sans doute là une vraie extension et pas juste un DLC, la frontière est floue parfois, mais une vraie extension qui serait payante, qui coûterait un petit peu plus cher. Moi je la vois bien arriver à 50 € ou à 40 €, qui arriverait à la fin de l'année. Mais donc là, House of Wolves arrive avec plein de petits trucs en plus. Je vais pas m'étendre pour ceux qui n'aiment pas spécialement Destiny. Moi, j'aime bien. J'y suis retourné quand il y a une nouvelle extension. J'y joue de temps en temps. Et je serai heureux de découvrir ce qu'il y a dans cette nouvelle extension. Je sais qu'il y a plein de gens pour qui Destiny ne fonctionne pas. Moi, il a fonctionné. Donc, voilà.
Tant mieux.
Heroes of the Storm sera officiellement lancé le 2 juin. Ouais. Il y aura une période de bêta ouverte un petit peu avant. Je pense que le monde entier, tous ceux qui voulaient une clé d'accès l'ont eu aujourd'hui.
Oui, c'est bon, je l'ai enfin eu, moi, c'est bon.
C'est vrai? Enfin,
il y a deux ou trois semaines.
Je compte même plus le nombre de personnes qui m'ont envoyé des mails ou des tweets, ou pour me dire, j'ai des clés, est-ce que tu veux les distribuer? Est-ce que tu... Et on a fait sur Facebook une opération de distribution de clés, et je crois que tout le monde en a eu, là.
Oui,
mais bon.
Non, là, c'est bon.
Il y a quand même
mais
des gens qui attendent qu'il soit lancé pour s'y intéresser.
J'ai enfin eu ma clé, je n'y ai pas encore joué.
Ah, c'est vrai?
Ah non, mais j'ai jamais joué un seul MOBA de ma vie, donc j'ai assez peur de me lancer là-dessus, et j'ai peur de la communauté, j'ai peur de... Voilà, j'ai peur de me planter, de faire n'importe quoi, et de faire part de mon équipe parce que je suis mauvais. Donc, ouais, non, mais il faudra que je teste, hein, mais pour l'instant,
franchement,
ouais, faut que j'appréhende.
Même moi qui ne suis pas super fan, je dois avouer que la courbe d'apprentissage est
oui,
quand même
pense.
Hyper, hyper douce, quoi.
Ouais.
Tu commences... Déjà, tu as un vrai tutoriel qui est hyper bien foutu et hyper drôle, qui t'apprend vraiment tout ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas juste, là, appuie sur tel bouton et chope le last hit et tu n'y arrives jamais et tu crises. Tu as vraiment un tutoriel hyper simple. Ensuite, tu commences des parties avec des bots. Puis, tu commences des parties en coopératif contre l'ordinateur. Enfin, c'est vraiment doux, quoi. Donc, si tu veux tester un MOBA, celui-là, c'est vraiment un pari sûr.
Eh ben, tu m'as convaincu, je sais ce que je vais faire de mes vacances.
Voilà. Bon, après, peut-être que t'aimeras pas, mais en tout cas, t'es
oui,
pas
non,
en danger.
Ça vaut le coup de tester.
Ultra Street Fighter 4 arrive sur PlayStation 4 le 26 mai. Décidément, la fin du mois de mai va être entre
Lourde.
Tout ça et... c'est en juin, j'allais dire en mai. Attends, non, The Witcher 3, c'est en mai aussi, non?
Je sais pas du tout.
Je sais plus. Ah, je me souviens plus des dates. Il a été décalé il n'y a pas si longtemps. Mais bon, le mois de mai et le mois de juin vont être assez agités, avec notamment Ultra Street Fighter 4 qui arrive aussi. Moi, j'ai acheté Street Fighter 4 à l'époque, j'ai acheté la version arcade. Je sais plus si j'avais acheté la version super ou arcade, enfin bref, j'en ai une autre. Bon, la version Ultra, peut-être que je la repayerai sur, sur PlayStation 4 parce que c'est un jeu auquel on retourne un petit peu tout le temps. Oui. Et là, comme j'ai plutôt ma PS4 qui est branchée et que j'allume régulièrement, bon, je me dis, j'ai pas la version Ultra, 24,99€ ou enfin 25€. C'est pas le prix du jeu complet. Oui, on repaye encore une fois, mais il y a eu un vrai ajout. Il y a eu plein de personnages, il y a eu un équilibrage, et puis c'est un prix raisonnable pour un jeu qui est en plus sur une nouvelle plateforme. Moi, je pourrais me laisser convaincre.
Après, la version Ultra, elle est déjà sortie l'an dernier sur, donc sur PS3 et sur 360. Et là où c'est assez paradoxal, et on voit la stratégie de Capcom là-dessus, c'est que c'est la première fois, c'est la première fois depuis un moment qu'on n'a pas une sortie sur Xbox One et PS4 en même temps sur un jeu Street Fighter. Et avec l'Evo qui va arriver en juillet, je me demande, enfin, pour le coup, ils sont vraiment en train de favoriser totalement PlayStation. Ils ont annoncé déjà que Street Fighter 5 serait disponible d'abord sur PlayStation. On ne sait pas si ça sortira sur Xbox One.
Ils ont dit exclusif. Hein.
Exclusif, oui. Mais ils disent
ça peut être pour un temps. Oui, c'est vrai. Voilà.
Donc on ne sait pas. Et pour le coup, pour les joueurs de Xbox One, parce que Street Fighter, on a une communauté sur les deux plateformes. Ça risque d'être assez étrange.
C'est vrai. Bon, moi, j'imagine qu'il arrivera sur Xbox One ensuite. Mais...
sûrement.
Et, ou peut-être pas, remarque. On ne sait pas le niveau d'exclusivité qu'ils
c'est
ont
ça.
Entre... Parce que si ça se trouve, Sony est allé voir Capcom et a dit à partir de maintenant, les Street Fighter, c'est sur PlayStation.
C'est
et
ça.
On vous donne X millions de brousouf. Et peut-être.
Mmh. Non, c'est très possible.
Ouais. Mais bon, je serais pas non plus surpris d'apprendre que Ultra Street Fighter 4 arrive sur Xbox One un mois plus tard. Hein. Ça serait pas très étonnant ouais. non plus. Quoi d'autre? Ah oui, The Witcher 3, c'est bien le 19 mai. Hein, donc, le 19 okay. mai. Le mois de mai va être agité, c'est sûr. et enfin, Call of Duty Black Ops 3. Je suis sûr que, vu tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure,
sur le FPS.
Tu l'attendais avec une impatience.
Non dissimulée. Enfin,
c'est
si.
Ça.
Non, bon, voilà.
Bon,
un nouveau Call of Duty.
Un nouveau Call of Duty qui va dans un futur moins proche que le futur d'avant. Alors, c'est Black Ops, donc ça reprend la série des Black Ops. C'est pas comme Advanced Warfare, c'est une autre ligne d'histoire. Et on sait à quel point l'histoire est importante dans Call of Duty.
Oui.
C'est le futur, avec des histoires d'amélioration mécanico-biologique. Donc, moi, je l'ai appelé son petit nom pour moi, c'est Advanced Warfare.
Ouais.
Et sur Twitter, on m'a dit, c'est Advancereur Warfare, ce que j'ai trouvé très drôle. Bon, il y aura quand même un mode coop, tout le mode solo pourra être fait en coop, ce qui est assez sympa parce que moi j'aime bien jouer en coop sur ces jeux-là et j'aime bien jouer en solo et en coop. Donc le multi c'est moins mon truc. Les zombies sont de retour, ok, bon ça, rien d'incroyable. Et il sera disponible le vendredi 6 novembre.
Bon.
Là encore, on reste dans la tradition Call of Duty yenne. Ils savent faire les trailers, leurs trailers sont jolis, bien foutus.
De la mise en scène.
Bon, moi je suis pas super excité, mais à vrai dire, je suis pas super excité parce qu'on a on en a un par an, comme on le dit souvent. Si on en avait un tous les deux ou trois ans, je pense que. Mais bon, Activision ferait moins d'argent.
Mais c'est drôle de regarder simplement quelques années en arrière quand Call of Duty, c'était un jeu qui était vraiment basé sur la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, voir à quel point ils ont totalement dépassé ça, ils s'en foutent totalement, ils sont plus à ça près. Et aujourd'hui, ils partent complètement dans le futur. Enfin,
C'est marrant parce que, tu sais, ce qui a provoqué cette fuite en avant, cette course vers le futur... C'était Call of Duty Modern Warfare,
ouais.
Qui était sorti en 2007, je crois.
Ça doit être ça.
Ou 2009, je ne sais plus. Attends,
je te laisse continuer, je vérifie.
Ok. Donc, c'était bien 2007. Hop, voilà. C'était un jeu, mais... incroyable. Enfin, à l'époque, on a du mal à se souvenir avec le cynisme qu'il y a autour de Call of Duty aujourd'hui. D'une part, Call of Duty était déjà une série intéressante avant. Modern Warfare a complètement cassé les codes de tout ce genre. Et franchement, c'était un jeu qui te donnait des expériences. Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2, c'était des expériences invraisemblables. Donc, bref. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et justement, on a une histoire qui nous lie un petit peu à ça avec, entre parenthèses, pour Deus Ex dont on parlait la dernière fois, le directeur du jeu, Jean-François Dugas, a confirmé qu'on pourrait tout ghoster, donc tout faire en stealth et même les boss. Donc ça, c'était une bonne nouvelle pour les gens qui étaient un petit peu effrayés par le trailer très orienté action au moment du reveal il y a quelques semaines.
On pourra toujours faire l'infiltration.
Voilà, bah c'était pas sûr, mais en l'occurrence c'est le cas. Et enfin, tu m'as montré un petit tweet qui était plutôt marrant, qui relie Call of Duty et Deus Ex, que je vais te laisser expliquer.
Alors sinon, simplement, c'est le. Alors, je pense que Patrice le mettra dans les liens de l'émission. C'est une réaction du compte Twitter officiel de Deus Ex qui après avoir vu le tout premier trailer de Call of Duty, avec un petit chat qui tourne la tête, qui fait genre mais vous m'avez volé totalement l'idée en fait. Et parce que vraiment, le trailer de Call of Duty 3, Black Ops 3, c'est vraiment du Deus Ex avec, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, des modifications biomécaniques, des bras. Qui servent d'armes, etc. Et on est vraiment dans l'esprit d'un Deus Ex là-dessus.
Et
l'infiltration,
et l'idée, jusqu'où irez-vous
c'est ça.
Jusqu'où irez-vous, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Est-ce qu'on perd notre humanité quand on est à moitié machine, etc., etc. Je pense que Deus Ex a pas trop de soucis à se faire parce que c'est des jeux quand même très différents. Oui.
Je pense pas qu'on puisse jouer à Call of Duty simplement en infiltration.
C'est ça. Oui, exactement.
C'est pas l'esprit.
Et j'ai l'impression que Call of Duty malheureusement n'a pas répondu au tweet. C'est bien dommage
parce que
c'était tellement bien fait. D'ailleurs, je vais le retweeter tout de suite. Il était très 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 bien ce tweet, c'était très très drôle. Donc c'est dommage que Call of Duty n'ait pas répondu parce que c'est très bon esprit, je crois, au final. Donc. Bon, et voilà, c'était notre petit clin d'œil pour la fin de cet épisode. Je crois qu'on a couvert un petit peu tout. Il y a plein de jeux qui sont vendus à des millions d'exemplaires, comme City Skyline, Monster Hunter 4 Ultimate en Europe. Bloodborne a fait 1 million, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai continué à jouer un peu, j'ai tué le deuxième boss de Bloodborne. Enfin, le deuxième boss, le père Gascoigne. Donc, je ne me suis pas arrêté uniquement à la bête cléricale. Mais bon, je crois que j'ai eu ma dose là, mais j'ai quand même fait un petit peu plus. Et Dragon Ball Xenoverse a vendu 2 millions.
C'est beaucoup.
Rendez-vous compte.
Ouais. Et j'étais à 5 PC, 1 million de ventes le lendemain de la sortie sur Steam.
Aussi, j'avais même pas vu ça.
Ouais.
C'est bon, c'est une bonne période pour les jeux vidéo, je crois.
Ouais, ça marche bien. C'est ça de l'avenir.
Ça va, oui, c'est un média auquel je crois.
C'est ça.
Bon, bah merci Geoffroy d'avoir été là pour cet épisode fort sympathique. On va se quitter, mais avant ça, je voudrais que tu nous dises où on peut te retrouver sur l'internet ou même ailleurs, si ça te dit.
Alors, sur Twitter, ailleurs, on va éviter de me suivre, c'est mieux. Mais sur Internet, on peut me retrouver sans problème sur twitter.com/griffo avec 2 F et 4 O, sur tomsyguide.fr, et jusqu'en juin, donc, sur culturebreakdown.com. On a enregistré une émission hier, donc elle sera disponible assez rapidement, probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà.
Très bien. Mais attends, j'ai un affreux doute. Tout à coup, ça se prononce Griffo?
Je sais pas, les gens prononcent tous différemment.
Mais parce que moi, j'ai toujours dans ma tête, prononcé Griffo.
Moi, au début, je commençais par prononcer Griffo, et puis finalement, les gens ont commencé à dire Griffo, et j'ai arrêté de lutter. Donc,
d'accord.
Donc, okay, Griffo, ça me va très bien aussi.
C'est Griffo, comme Tigrou, tu
vois. C'est ça. Oui.
Ok. Bon, très bien. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, et je suis aussi sur Facebook à NotePatrick et sur Google+, même si j'avoue que Google+ est un petit peu moins actif ces derniers temps. Et il y a aussi le site de mes productions podcastiques, frenchspin.fr, sur lequel vous pouvez retrouver les notes de cette émission, et vous pouvez également découvrir d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech au hasard, où on couvre toute l'actu tech comme on couvre l'actu jeu dans le Rendez-vous de jeu, c'est logique. Et vous pouvez aussi, si vous avez un petit peu de temps à perdre, aller sur iTunes et me laisser un petit commentaire et une petite note pour le Rendez-vous jeu. Ça serait extrêmement apprécié, parce que je pense que l'émission commence à fonctionner correctement, et il est temps que d'autres nous découvrent. Si vous pouvez en parler autour de vous, par exemple sur iTunes, mais ailleurs aussi, ça serait extrêmement sympathique de votre part.
J'ai découvert juste, avant de te laisser finir, j'ai découvert le Phileas Club il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça très très bien. Enfin, il n'y a pas longtemps, en janvier, je pense qu'après l'épisode que vous aviez fait, après les attentats. Mm-hmm. Et pour les gens qui comprennent l'anglais et qui s'intéressent un peu à l'actualité, je trouve ça très très bien.
Ah, c'est gentil. Voilà. C'est vrai que c'est une émission qui est un petit peu particulière, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Ça s'appelle The Phileas Club. Elle est disponible sur frenchspin.com. Là, pour le coup, c'est où sont mes émissions en anglais. Et c'est une émission où j'invite différentes personnes de différents pays et on commente l'actu internationale. Et en l'occurrence, le dernier épisode, par exemple, c'était avec un Américain de Californie et un type qui vit au Vietnam. Et donc, on a couvert un petit peu les choses qui étaient importantes pour nous dans ces différents pays. Ça donne une perspective globale sur l'actualité. C'est une émission que j'aime beaucoup. Donc, merci de la mettre en avant. Si vous parlez anglais, vous pouvez aller y faire un tour. Et donc, évidemment, allez faire un tour sur frenchspin.fr, nous dire ce que vous pensez dans les notes de l'émission du rendez-vous jeu, ce que vous pensez de cette histoire de mode payant sur Steam, chez Valve, et de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du rendez-vous jeu. Ciao à tous,
bye.
Of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.